Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité cyber. Donc alors que Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, si vous travaillez dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information, vous faites peut-être du threat intelligence sans le savoir également. Alors, le threat intelligence, qu'est-ce que c'est? Qui le pratique? Comment? Pourquoi? Ce sont les questions que nous allons poser à Thomas Chopitea, qui travaille au CERTESG et qui nous fait le plaisir de participer à cet épisode. Alors ce soir, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Eric Fraissinet.
Bonsoir.
Eric Leblanc.
Bonsoir.
Hervé Schauer.
Bonjour.
Jean-François Audenard.
Salut.
Nicolas Ruff.
Hello.
Sébastien Larigné.
Bonsoir.
Et moi-même, Johan Hulloa. Alors Thomas, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup pour ta participation.
Merci à vous pour l'invitation.
Alors le threat intel, comment est-ce qu'on pourrait déjà traduire ça?
Le threat intel, on pourrait le traduire très, très littéralement hein, comme étant du renseignement sur les menaces. Donc grosso modo, c'est comment est-ce qu'on peut obtenir plus d'informations sur les menaces qui ciblent notre organisme ou l'entité qu'on cherche à défendre, donc d'un point de vue de la réponse à incident. Et comment aussi utiliser ces renseignements pour s'améliorer.
D'accord. Et comment est-ce qu'on peut définir une menace?
Une menace, c'est tout un acteur qui peut avoir la capacité et aussi l'intention de nous nuire. Donc les menaces, hein, y a des définitions, à peu près une définition par organisme ou par white paper. Donc moi, celle que j'adopte quand j'entends le terme menace, c'est ça. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a les capacités et l'intention de nous nuire.
Non, ça c'est la source de la menace. Hein. Les définitions, il n'y en a pas une par white paper. Hein. Il y a une définition normalisée de la menace. C'est pas la peine de chercher midi à 14h.
Tu parles de normalisation. Tu parles de celle de Mehari ou tu parles de celle de IBIOS?
Non, celle de l'ISO 27000, point.
Oui, c'est une des définitions. Il y a l'ENISA qui a fait une autre définition.
Mais c'est la définition consensuelle à laquelle toute la planète a participé, donc la cause est entendue.
D'accord.
Écoute, s'il y a quatre définitions différentes, c'est n'importe quoi. Je pense qu'il faudrait les unifier dans une nouvelle définition et avoir cinq définitions différentes.
Comme le standard, hein, tout le monde veut faire le sien et puis du coup...
Donc alors, une menace, donc tu disais que c'est quelqu'un qui a l'intention de nuire et les capacités, parce qu'effectivement, s'il n'y a pas l'un des deux points, s'il n'y a pas l'intention ou s'il n'y a pas les capacités, c'est plus une menace.
C'est ça, ou alors c'est une menace très faible.
Ok, donc alors, pendant ta présentation, qu'on mettra dans un lien d'ailleurs, tu indiques que... il y a de grandes chances pour qu'on fasse du threat intelligence sans le savoir.
C'est ça. Donc, grosso modo, ce que je veux dire par là, c'est que dès lors qu'on intervient dans une réponse sur incident, on intervient sur des artefacts techniques, on intervient sur des méthodologies des attaquants, mais toutes ces informations qu'on a en amont, donc les informations qu'on a accumulées au fil du temps de par notre expérience, de par avoir lu des blog posts, des white papers, avoir fait des formations, tout ça, ça va construire un manuel en fait d'informations que nous on va utiliser pour améliorer notre réponse à incident. Et quoi qu'on dise, c'est quand même du renseignement. Donc c'est des informations dont on dispose au préalable qu'on va appliquer à ce qu'on a maintenant sous la main et qui vont nous aider à résoudre notre incident. Donc ça c'est la définition très en amont. L'autre définition, on va dire qu'on pourrait avoir, c'est aussi de dire, dès qu'on a, donc typiquement si on a une trace réseau, une communication malveillante quelque part, personne va s'arrêter à dire, cet ordinateur il communique vers tel domaine. En général, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont aussi aller chercher à qui appartient le domaine, qui l'a enregistré, à quels autres IP il a été mappé dans son histoire, est-ce qu'il a été transféré d'ownership, etc., etc. Donc tout ça aussi, du moment que c'est des informations qui vont être intéressantes pour l'incident et qui vont permettre de le résoudre plus facilement ou plus efficacement, tout ça, ça constitue des renseignements. Et c'est du threat intel. Et à mon avis, toutes les équipes qui pensent à un incident le font. Elles savent peut-être pas que c'est du threat intel, mais en tout cas, Moi, ça rentre dans ma définition.
Est-ce que ça suppose d'avoir mis en place un processus formalisé? Parce qu'en général, tous ces trucs-là, ça vit dans la tête des auditeurs et dans des fichiers IDB qui traînent à droite à gauche sur le disque.
C'est ça, c'est ça. Mais c'est exactement le problème, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit l'explosion des marchands de threads Intel. Et d'ailleurs, on reviendra là-dessus, j'imagine, par la suite. Mais aujourd'hui, quand il n'y a pas de processus ou autre, ça ne veut pas dire qu'on ne soit pas en train de faire de la threat intel, même si le cycle du renseignement, on va dire, c'est un processus qui est très carré. On pourrait dire qu'un mauvais cycle de renseignement, ou un cycle qui n'est pas optimisé, c'est juste un cycle qui n'a pas de process, quoi. Donc, si on veut faire de la threat intel à l'arrache, c'est possible. Par contre, voilà, si on veut le faire avec des process, c'est aussi possible. Et ça fera peut-être que justement le processus ou l'intelligence, le renseignement qui est généré comme ça sera de meilleure qualité. Ou pas, en fonction des analystes.
Alors, t'y crois, toi, au partage de threads Intel? Enfin, ce que les gens essayent de partager aujourd'hui, c'est des marqueurs, quoi, des IOC. Mais ça reste des MD5, généralement, des noms de fichiers. Enfin, comment tu peux partager l'intelligence? Bon, je sais que la traduction intelligence, c'est renseignement, mais.
Oui, mais on va faire abstraction de ça, sinon on va pas s'en sortir. Mais oui, alors bah le partage de threat intel, comme tu l'évoques, les IOC, c'est ou les marqueurs, comme l'appellent certaines instances gouvernementales, c'est pas le seul élément d'intelligence ou de renseignement qui peut être partagé. Donc typiquement, aujourd'hui, si personne n'avait jamais partagé de threat intelligence, les gens qui débarquent dans la réponse à incident ou qui commencent à monter un cert ou un SOC, ils sauront jamais ce que c'est qu'un pass de hache. Pour moi, la connaissance de savoir ce que c'est qu'un pass de hache et comment est-ce que les attaquants s'en servent, ça fait partie de leur technique et de leur tactique. Donc du coup, ça constitue un module de threat intelligence. C'est du renseignement sur la menace. Savoir comment opèrent certains groupes, savoir que les Anonymous ils utilisent tel soft pour dédosser des sites web, c'est un élément de renseignement qu'on a et dont on dispose pour adapter nos défenses. Donc il n'y a pas uniquement que des IOC, que des MD5, que des IP. Il y a aussi toute une partie tactique et technique qui fait que c'est pour ça que je disais justement, on a tendance à faire l'amalgame entre Threat Intel et je te balance des MD5 dans un rapport en PDF ou en JPEG. Mais il n'y a pas que ça derrière.
Ok, donc c'est quoi la différence entre information et renseignement? Enfin, supposons que t'as des gens qui ont une certaine expérience dans le milieu, t'as des IOC, t'as du MD5, etc. À quel moment tu te mets à faire de la threat intelligence?
Bah, tu te mets à faire de la threat intelligence dès lors que tu prends plus cette information en brut, mais tu essayes de lui appliquer un contexte autour. Parce que c'est sûr que d'avoir des MD5 qui sont balancés comme ça sert pas à grand-chose quand on sait que c'est un MD5 ou si on le trouve à tel endroit ou entre telle et telle époque, c'est peut-être que c'est très très malveillant. Ou peut-être, enfin, l'MD5 c'est peut-être un mauvais exemple, on pourrait parler d'une IP, ce serait pareil. Si telle IP, on la retrouve à tel et tel endroit, à tel et tel moment dans le temps, on pourra dire, bon, bah, ça, c'est juste un booter qui a été loué par des cybercriminels pour faire du DDoS. Peut-être que 5 ans plus tard, ça change. Donc, c'est vraiment le contexte qui entoure cette information technique. Et c'est le process de dire, bon, OK, on a une information, on va l'analyser, on va la contextualiser. Et de ça, on va sortir du renseignement. Donc, c'est vraiment de l'information qui, contrairement à juste avoir une IP en l'air, va nous aider à mieux adapter notre réponse à incident.
En fait, tu es en train de dire que la threat intelligence, c'est du processus pas formalisé.
C'est du processus à formaliser?
Non, pas formalisé.
Formaliser.
Faut mettre à jour les informations et les recouper.
Ah, c'est ça, mais après, il faut avoir des informations qui sont contextualisées, en fait. C'est même plus important que juste dire mettre à jour. C'est que, par exemple, une IP qui va être vue dans un trafic d'une entreprise X aura peut-être pas la même importance qu'une IP qui sera vue dans la même entreprise, enfin dans une entreprise différente justement, entreprise Y, ou peut-être que ce sera juste des dommages collatéraux ou autre. Typiquement, si je prends l'exemple d'un waterrolling attack, ça consiste à pirater un site web qui est très souvent visité, on va dire, par l'entreprise X, pour que les employés de l'entreprise X puissent télécharger des malwares ou autres codes d'exploitation. Par exemple, si les traces réseau vers ce site web, elles sont vues dans l'entreprise X, ça peut représenter quelque chose de très important. Si elles sont vues chez l'hébergeur qui héberge ce site de Waterling, effectivement, ça constituera une menace, mais ce sera pas du même ordre, parce que la cible, ce sera plus eux, mais ce sera l'entreprise qui va visiter le site. Donc c'est le même marqueur qui, au même moment, au même endroit, aura deux significations différentes en fonction de... du contexte justement qui est appliqué. Si c'est l'entreprise X qui le fait ou si c'est l'hébergeur qui le voit.
Mais du coup, comment tu la récupères cette information? Parce que l'hébergeur, il t'envoie pas les pcaps de son réseau. En gros, il te faut quoi pour faire de la solid intelligence? Tu as parlé d'histoire de DNS, donc je suppose que ça aussi tu le fais avec un provider tiers. Enfin, tu vois, c'est pas tout le monde. Je veux dire, tu as l'information que tu collectes dans ton réseau, mais finalement, si tu veux la contextualité. Tu as besoin d'un certain nombre de prestataires autour qui vont t'apporter de la valeur ajoutée.
C'est ça. C'est soit des prestataires qui vont apporter de la valeur ajoutée, mais ça encore aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément de prestataires qui apportent donc des marqueurs techniques, mais je pense que les gens ne savent pas trop quoi en faire aujourd'hui de tout ça, mis à part déclencher des alertes dans leur SIEM. Cela dit, ça marche aussi par contact humain, et par connexion. Donc si on dispose des bons contacts de la bonne entreprise, on pourra dire, ok, imaginons qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui est en train d'exfiltrer des informations par mail vers une adresse Gmail, on pourra contacter nos bons contacts chez Gmail ou chez Google, qui pourront nous fournir plein d'informations intéressantes sur la boîte mail, ou pas, en fonction de la gravité, en fonction de l'historique. Après, je sais qu'il y a des entreprises qui sont très carrées sur comment est-ce qu'ils gèrent l'information en interne, mais le fait est que si cette information elle est pas partagée, ça marche pas quoi. Tout le monde va se retrouver à creuser les mêmes choses dans son coin, alors que si on travaille ensemble, ça peut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement quoi.
Bah, techniquement, si tu contactes Google en disant tiens, j'ai cette adresse Gmail qui me fait chier. T'as quand même assez peu de chances d'avoir quoi que ce soit comme information. Soit il y a une policy violation et l'adresse est terminée, tout simplement. Soit tu passes par l'interface où tu envoies les réquisitions légales. Et à ce moment-là, ça suit un process en bonne et due forme, mais il faut avoir la réquisition légale au départ, qui suppose avoir porté plainte, etc. Enfin, peut-être que Eric nous fait part de son expérience là-dessus.
Ça dépend quelles équipes tu contactes et dans quel contexte. Si c'est un CERT... qui a pignon sur rue et qui contacte l'équipe Abuse correspondante chez Google, il y aura une réaction adaptée. Si c'est une entreprise lambda qui contacte Google via un canal non prévu pour ça, ça risque effectivement d'être un peu plus compliqué. C'était une des questions que j'allais poser, d'ailleurs, c'est les réflexions de Thomas sur toutes les règles en matière d'échange d'informations qui existent. Et est-ce que tu es arrivé à te dépatouiller dans toutes ces règles et ces pratiques? Est-ce que tu as vu des bons guides sur le sujet, etc.?
Mais du coup, des guides sur le sujet, alors il y a... Je ne sais pas s'il en existe des formalisés, je sais qu'il y a le protocole, le Traffic Light Protocol, qui est beaucoup utilisé dans les cercles d'échange d'informations, qui définit en somme la politique de partage d'une information donnée. C'est-à-dire que si moi je vais aller dire, je vous donne une info, mais elle est TLP red, ça veut dire vous la gardez pour vous. Si elle est TLP amber, ça veut dire bon, vous pouvez la partager avec les membres de votre organisation. Si c'est TLP green, ça sera un peu plus large. TLP white, ça veut dire que c'est public. Donc c'est régi de manière très informelle, hein, parce que évidemment, enfin les relations de confiance, il n'y a pas vraiment de process pour les avoir. Hein, on n'est pas en train de signer une clé. Donc ça peut être variable en fait.
Enfin, le vrai problème, c'est pas tant la confidentialité que tu mets sur l'information que la manière dont tu communiques l'information. Parce que si tu dis tiens, tel presta s'est fait own, par exemple là aujourd'hui, X-Rays vient de découvrir qu'ils se sont fait own. Bon, c'est dans leur forum, hein, ça c'était AP White. Et maintenant, ça veut, enfin, tu vois, tu peux, c'est pas une information actionnable. Je veux dire, si après tu vas voir des équipes techniques, tu leur dis, tiens, votre prestat s'est fait on. Bon, depuis combien de temps, qu'est-ce qu'on a chez eux, c'est quoi, enfin à quoi s'intéressaient les attaquants, etc. Tu vois. Et donc à partir du moment où tu dois échanger une masse conséquente d'informations, ça peut plus se faire par oral, ça se fait forcément par écrit. Alors du coup, se pose le problème des formats de transmission. Enfin, tu vois, j'ai connu l'époque où il y avait cette liste de tous les vendeurs. C'est un peu une liste de certes, mais pour les gens qui faisaient des éditions logicielles. Ça s'appelait Vendor Sec, je crois, la liste. Et en fait, bah, évidemment, leur liste avait été infiltrée depuis des mois et ils s'échangeaient toutes les failles qu'il y avait dans leur soft. Et les pirates y avaient directement accès, quoi.
Ouais. C'est sûr que ça, le problème de. Alors, tu parlais de volume de données à l'instant. Moi, je parlerais plus de si les données sont sensibles ou non. Pour reprendre le cas d'X-Rays, oui, c'est sûr que voilà, savoir qu'ils se sont fait pas ou ça nous fait une belle jambe. Savoir que nos infos perso sont dans la nature, déjà, ça peut nous dire, bon, bah, peut-être que si on a des licences enregistrées avec des adresses mail de notre entreprise, elles seront peut-être utilisées dans le cadre de scans ciblés du genre, ah là là, bah, regardez, installer cette nouvelle version d'IDA Pro, c'est une réduction, alors qu'en fait, c'est un malware. Enfin, on peut extrapoler, hein, c'est un exemple que je donne, je vais pas dire.
Rigolo que les attaquants aient backdooré IDA depuis des années, mais bon.
Ce serait génial. Ça, effectivement, ce serait génial. Mais justement, savoir qu'ils se sont fait pawn, ça ouvre la porte à ce genre de questions. Et je pense que les mecs chez X-Rays, ils doivent être en train de couler sous des questions du genre « Mais oui, mais d'accord, mais est-ce que votre base logicielle, elle est saine ou pas du tout, quoi ?» Et c'est ça l'information qui sera réellement intéressante. Ou plus intéressante que juste le fait qu'ils se soient fait compromettre.
Ouais, globalement... L'idée, c'est comment tu fais pour échanger des masses d'informations qui ne rentrent pas, qu'un humain ne peut pas retenir. Donc, tu parlais de base passive DNS, bon, bah, t'as des API pour faire des requêtes, etc. Mais je vois pas trop comment tu peux collecter de l'information à valeur ajoutée actuellement, sachant qu'il n'y a aucun formalisme autour de l'information. Le passive DNS, ça reste des adresses IP, quoi.
Ouais. Il y a Stix et Taxi qui sont des protocoles qui visent justement à montrer des techniques d'attaquants qui vont un peu au-delà du juste le marqueur technique. Moi, je trouve ça un peu indigeste à utiliser. Bon, c'est des énormes blocs de XML un peu dans tous les sens. Je pense qu'il y a de l'idée, mais ça montre quand même que c'est très très difficile à échanger ce genre d'informations qui vont, dès que ça va un peu au-delà du technique. Parce que oui, envoyer une lampe palanquée d'adresse IP, ça, on sait faire. Après, décrire des techniques et des tactiques d'adversaires, ça devient beaucoup plus difficile. Donc, je pense que l'échange humain, ou en tout cas l'analyse humaine de ce genre d'informations, elle est primordiale. On peut pas l'éliminer. Sinon, ça fait très longtemps que dans les agences de renseignement, ils auraient éliminé tout ça. Par contre, je pense qu'on peut essayer de réduire la friction au maximum entre l'information technique, la représentation human readable en fait.
Il y a des solutions pour arriver à stocker des assets. Tu parlais de waterrolling attack. Comment est-ce que tu sais qu'un site a été consulté par ta société? Sur le petit ça va, sur le gros ça devient plus compliqué. Est-ce que tu as des trucs qui permettent de référencer ça et monter un flag quand tu vois passer?
Éventuellement, si le waterrolling attack est rendu public. Et si, admettons qu'on ait un prestataire qui recense toutes les attaques de waterrolling dans le monde, il pourrait être en mesure de publier une feed ou un site qui recense toutes ces attaques de manière technique et intelligible par les machines. Et toi, tu pourrais intégrer ça à ton CIEM de manière automatisée. Alors après, bon, c'est un prestataire tiers, il va sûrement pas faire ça gratuitement. Et d'autant plus que ces informations sur les waterrolling attaques, elles seront pas forcément publiques. Donc ça veut dire que potentiellement le prestataire aura accès à des informations privilégiées qu'il essaiera de vendre après parce que c'est son business model.
Ah, mais ça c'est clair que la plupart des sites la plupart des API intéressantes, elles sont payantes.
Hein. C'est ça. Il y a des API publiques, mais elles sont juste là. Soit elle donne des informations, mais sans aucun contexte, ce qui est très frustrant, hein, parce que dès qu'on cherche une adresse IP, on tombe sur, il y a une feed qui la recense et qui dit, oulala, ça, oui, c'est un CNC, c'est malveillant, ça a été vu il y a 3 mois. Ok, bon, mais si on n'a pas plus d'infos que ça, on ne saura pas si c'est un CNC de malware, bancaire, complètement lambda, si c'est du configure, si, enfin, on ne saura rien du tout. Ça, éventuellement, ça nous apporte une information que c'est malveillante, que l'adresse IP, pardon, est malveillante, mais ça, on le savait à la rigueur déjà, quoi. Mais il existe des outils hein, qui ingestent ce genre de feed, d'informations, aussi qui permettent à un analyste de dire bon ben voilà, là on a défini un incident, à ça on va lui rajouter, on va l'associer à un acteur qu'on connaît, on va peut-être l'associer à certains hashes, on va peut-être l'associer à d'autres IP, et éventuellement à des centres de malware, à des PKAP, ça il y a des outils qui font ça, ils sont encore dans leur début, hein. Donc ça, on espère que par la suite, ça continuera d'évoluer dans le bon sens. Je pense à MISP, à CRIT, je pense aussi à FIR, qui est l'outil de gestion d'incidents qu'on utilise au CERT, qui fait ça, même si c'est pas sa mission principale, il le fait un peu. Mais moi, je pense que le futur de tout ça, c'est d'arriver à justement les rendre interopérables et arrêter que tout le monde fasse la même chose dans son coin, mieux que les autres, entre guillemets, quoi.
Est-ce que tu peux dire deux mots sur FIR? Tu en parles dans ta presse.
C'est un outil qui permet de déclarer un incident de sécurité informatique et de le suivre. Donc en retraçant son activité, enfin ses états, on va dire, voilà, l'état, il est ouvert, il est fermé, il est bloqué. Il permet de suivre l'évolution de l'incident dans le temps. Donc peut-être qu'il changera, qu'il passera de indisponibilité à déni de service si jamais on trouve que c'est malveillant. Et il permet aussi de recouper automatiquement en fonction de certains marqueurs techniques, donc des adresses IP, des hash, des noms de domaine, des URL. Il permet de faire le recoupement automatique avec l'incident qu'on est en train de remplir en ce moment et l'incident qu'on a rempli il y a 2 ans, quoi. Ça veut dire que si jamais on tombe 2 fois sur la même URL, on le saura instantanément. Et du coup, on pourra l'associer à notre incident précédent, qu'on aura peut-être déjà résolu et sur lequel on aura déjà fait l'investigation. Et ça, du coup, ça apporte vraiment une mine d'informations très contextualisée, parce qu'on aura affaire au même marqueur dans le même contexte de notre entreprise, qui est celui qui nous intéresse. Et du coup, ça nous permet de résoudre l'incident plus facilement.
Ouais, je vois que c'est dispo sur GitHub.
Ouais. On l'a ouvert il y a quelques mois.
Bonne initiative.
Merci.
C'est développé en Python, c'est ça?
Ouais, c'est développé en Python.
Tu connais beaucoup de gens qui font de l'incident response, mais qui font de la threat intelligence en France? Parce que tu as l'air de dire que tout se fait de la main à la main et qu'il faut connaître des gens pour avoir la bonne information. Et la communauté des gens qui sont dans le domaine, elle représente combien de personnes en France?
Moi, je saurais pas te donner un nom exact, mais pour rester fidèle à ce que je disais au début, des gens qui font de la threat intel ou qui du moins s'en servent dans leur truc de tous les jours, c'est vraiment absolument tous les certes en France. Ça, c'est clair et net. Et les infos, elles sont échangées dans la mesure du possible quand c'est relevant, quoi, quand c'est pertinent. Après, je sais que voilà, à l'ANSI, ils ont une équipe dédiée à ça. Chez Cassidian, ils en ont une aussi.
Et avec les NSSI, il y a un véritable partage de renseignements?
Comment?
Avec la NSSI qui a une équipe dédiée aux renseignements sur les menaces, il y a un partage avec les cercles d'entreprise?
Il y a un partage officiel d'informations, oui. Enfin, c'est des informations qui sont partagées entre cercles.
Pour apporter un peu de précision là, sur l'ANSI et le sharing, dans le cadre de PRIS, il est prévu qu'il y ait des échanges plus qu'aussi unilatérales, comme il y a souvent le cas entre l'ANSI qui demande et souvent c'est jamais l'inverse, quoi. On n'arrive jamais vraiment à avoir d'infos qui viennent de l'ANSI. Mais dans le cadre de PRIS, il prévoit justement un échange bilatéral entre les sociétés qui seront PRIS et l'ANSI, pour échanger des marqueurs justement. Sachant qu'en plus, dans ce cadre-là, ils veulent classifier les IOC, donc ça c'est pareil, ça va être.
Je me demande comment tu vas classifier quand tu vas passer un Mimikat. L'attribution est assez difficile.
Kiwi.
Je suis même le fait de dire que absolument tous les CERT français n'ont pas le même objectif. Enfin, autant le CERT Sauché, le CERT BNP, je suppose qu'ils défendent la banque, autant oui. Il y a plus de CERT commerciaux, je sais pas, CERT Plexi, CERT XMCO, CERT IST, et il y a des CERT comme le CERT Renater qui sont pour le coup plutôt côté administration, qui peuvent pas forcément partager non plus. Enfin, quand tu dis tous les CERT, tu es vraiment en contact avec tout le monde ou en fait c'est des groupes de travail interbancaires?
Quand je dis tous les CERT, c'est que tous les CERT font de la threat intel. Qu'ils le fassent dans leur coin et qu'ils partagent ou pas les infos, c'est une chose. Après, ça, je suis persuadé qu'ils le font tous, de se renseigner sur qui les attaque et pourquoi et qu'est-ce qui est hébergé derrière ce domaine. Ça, je suis persuadé qu'ils le font tous. Après, non, c'est sûr qu'on est, on est pas non plus en contact avec tous les CERT de la planète, ni même avec tous les CERT en France.
Mais, alors, tu dis savoir qui nous attaque, mais ça veut dire que la threat intel, ça permet de résoudre le problème de l'attribution?
Bien sûr que oui, non. Non, le problème de l'attribution, c'est encore un autre troll gigantesque avec lequel j'aimerais bien débattre avec plaisir. Quand je dis qui nous attaque, je pense pas vraiment à dire c'est la PLA, c'est la NSA, c'est les Chinois, c'est ce qu'on veut, c'est les Russes. Je pense plus à dire quel est le genre d'attaquant qu'on a en face. C'est-à-dire... quel est son profil et qu'est-ce qu'il cherche à faire. Savoir d'où ils viennent et qui les commande, à la rigueur, bon, si on peut le savoir, c'est parfait. Par contre, c'est sûr que, évidemment, c'est tout le troll vient de là, hein, c'est que c'est très difficile à déterminer. Par contre, on peut quand même se faire une assez bonne idée de leur objectif. Et c'est d'ailleurs ce qu'on devrait faire quand on constate une intrusion sur notre réseau. C'est tout d'abord de savoir qu'est-ce qu'ils cherchent à faire. Quoi. Est-ce qu'ils cherchent à exploser les PC? Est-ce qu'ils cherchent à voler des impôts? Est-ce qu'ils cherchent à faire des transactions frauduleuses? Après, qui a commandité l'attaque? Est-ce que c'est une false flag ou quoi? Je laisserai le travail à l'ANSI pour le coup. Mais... Bon, donc, certes, on dispose rarement des compétences en géopolitique ou en analyste de renseignement nécessaires pour ce genre de choses. Quoi.
Et donc la promesse de la threat intel, c'est de comprendre ce que font les attaquants dans ton réseau, c'est ça? D'anticiper en fait la manière dont ils vont accéder à tes systèmes d'information? Enfin, je sais pas, si on prend le cas de TV5 par exemple, est-ce qu'ils auraient pu être sauvés par la threat intel? Est-ce qu'ils savaient qu'en tant que flagship de la culture française dans le monde, ils représentaient une cible et qu'il y avait des groupes d'attaquants qui en étaient après eux?
Ah ben s'ils savaient pas que c'était un flagship de la culture française, c'est qu'ils n'étaient pas en train de faire ça très bien. Non mais plus sérieusement, effectivement, s'ils avaient eu les bonnes infos au bon moment, peut-être qu'ils auraient pu se protéger. Mais après, j'en doute parce que ils n'ont pas d'équipe dédiée eux à ce genre de choses. Donc encore faut-il avoir la bonne information, mais d'arriver à s'en servir.
Ouais, ça Ouais, c'est la deuxième partie de l'étape. C'est une fois que, parce qu'ils étaient déjà piratés en fait plusieurs semaines avant de se faire complètement détruire. Et en fait, c'est la bonne question. C'est une fois que tu as sorti des choses de ta threat intel, qu'est-ce que ça va changer dans ton entreprise? Une fois que tu sais si c'est les Russes ou les Chinois qui t'attaquent, qu'est-ce que ça change dans tes process au quotidien?
Alors déjà de savoir si c'est les Russes ou c'est les Chinois, ça c'est une histoire d'attribution. Moi, je préfère dire de savoir quels sont leurs objectifs. Non, mais pour qu'on soit clair.
Oui, excuse-moi.
Pour leurs objectifs. Savoir quels sont leurs objectifs, ça te permet éventuellement de, après, côté métier ou côté autre que IT, ça te permet de mettre en place des protections ou d'autres process qui iront pallier au problème qu'il y a eu de base. C'est-à-dire que si les attaquants, on sait qu'ils sont là pour dérober des infos. Et on sait qu'ils se baladent partout en temps du passe de hache, et ben on essaiera éventuellement de limiter le logon en utilisant passe de hache, ou au moins lever des alertes quand on peut, si on le faisait pas déjà avant.
Parce que bloquer Mimikatz sur ton réseau, ça me semble déjà un projet qu'il faut avoir démarré il y a un certain temps. Hein. Pas besoin de se faire tout.
Bien sûr, mais d'un point de vue très pragmatique, c'est comme quand on voit un exploit kit qui tombe dans une entreprise, ça servira d'argument aux personnes qui s'occupent du métier et des process et tout ça, pour dire, regardez, ils vont mettre tout ça dans leur moulinette à risque, et ils vont voir que le risque il est plus élevé parce que bah, les probas sont plus élevées.
Et ça, tu arrives à influencer un DSI ou une direction générale en disant, moi, mon expérience, c'est plutôt qu'ils lisent le journal, ils disent, oh là là, regardez Sony, leurs mails sont sur Internet, donc il faut qu'on protège nos mails, quoi. Est-ce que tu peux venir en faisant de la futurologie et en disant, attention, on a constaté une recrudescence des attaquants qui s'intéressent au PowerPoint, donc il faut mettre en place un workflow pour sécuriser le PowerPoint en interne et ça va nous coûter tant. Est-ce que tu as des success stories à partager, en fait, c'est ça le fond de la question.
La success story que je pourrais avoir à partager, c'est sur CryptoLocker. CryptoLocker utilisait un DGA qui a été reversé et dont l'algo a été partagé publiquement. Du coup, ça nous a permis de préalablement bloquer tous les domaines qu'il allait générer d'ici de l'époque à fin 2015 et de dire bon voilà, si jamais vous voyez un domaine qui s'est contacté comme ça, et ben du coup il est bloqué instantanément. À l'époque, CryptoLocker ne pouvait pas contacter son domaine.
Thomas, c'est super intéressant. Est-ce que tu peux décrire ce que c'est que le DGA ?
Oui. Donc le DGA, c'est une manière de générer des noms de domaines. C'est en fonction d'un paramètre qui change indépendamment du contrôle de l'attaquant. Donc typiquement, ce qui va être utilisé le plus souvent, c'est la date. C'est-à-dire que à une date donnée, l'algorithme va générer 1000 domaines, admettons, sur ce jour-là, qui seront différents des 1000 qu'il aura généré la veille et des 1000 qu'il va générer le lendemain. Ça permet à un attaquant de reprendre le contrôle sur un malware qu'il aurait déposé quelque part si jamais les domaines actuels venaient à être bloqués. Mmh. Et CryptoLocker, justement, pour éviter de se faire blacklister partout, il utilisait donc un DGA qui lui permettait de contacter tous les jours un domaine différent qui était mappé souvent à la même adresse IP et récupérer sa clé cryptographique pour pouvoir commencer à faire son chiffrement. Évidemment, ça pouvait pas très bien se passer côté des entreprises, mais côté grand public ou personnes qui n'ont pas leur internet contrôlé par une instance comme aurait été la DSI chez nous ou alors les boîtes noires en France. Quand il n'y a pas ce contrôle, et ben du coup, si le contenu lui-même malveillant qui est hébergé chez des adresses IP un peu paumées est difficilement accessible, s'il n'est pas supprimé, et ben du coup, à ce moment-là, en changeant de domaine, on peut toujours enregistrer un nouveau domaine qui sera valable un jour, qui sera valable peut-être deux jours grand max, mais vu que de toute manière le DGA change tous les jours, il suffit qu'il soit valable juste un seul jour pour pouvoir faire ses dégâts. Et après le reste, c'est fini.
Et donc, en fait, l'algo a été réversé.
C'est ça.
Et l'information a été partagée.
Oui.
Donc, on est capable maintenant de mettre dans des blacklists les noms de domaines qui seront générés par CryptoLocker.
C'est ça. Donc, ça faisait que même si quelqu'un se prenait un CryptoLocker chez nous, et bah, du coup, ça aurait été bloqué et il n'y aurait pas eu de dégâts.
Donc en fait, la threat intelligence, c'est censé faire en sorte que tu n'aies pas besoin de perdre ton disque dur pour commencer à faire des sauvegardes, pour que les gens aient une approche proactive en matière de sécurité. C'est ambitieux.
C'est très ambitieux. Non, ça sert pas vraiment que à ça, mais c'est une sauvegarde en plus en fait.
Thomas, j'ai pas compris l'allusion sur les boîtes noires qui nous protégeraient de CryptoLocker.
C'était juste une blague.
L'étape suivante, c'est que l'ANSI met une règle IP table dans la boîte noire pour rediriger le trafic et récupérer toutes les clés de chiffrement des gens.
Alors Thomas, dans ta présentation, tu parles de six étapes qui sont liées au Threat Intelligence sous l'acronyme de PICERL. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Alors, PICERL, c'est surtout les six étapes qui vont répondre au processus de gestion d'incidents, en fait, plus que de threat intelligence. Donc, c'est tout ce qui est préparation, réponse, rémédiation et lessons learned. Alors on pourrait dire que la partie threat intel, elle rentre dans l'étape de lessons learned. Bon, on va dire, ah ben oui, peut-être que de mettre un mot de passe admin par défaut, c'était pas une bonne idée, parce que ça, les attaquants, ils le savent et du coup, ils s'en servent. Donc, on va faire remonter ça dans le process, on va faire remonter ça aux entités qui s'occupent de ça, pour que justement, ils changent cette vulnérabilité ou ils sont, on va dire, ce trou par lequel sont passés les attaquants. Moi, je parlais d'autres modèles un peu plus loin dans la presse. Je parlais de OODA Loop et F3EAD. Eux sont des modèles plus de. Qui sont plus axés sur le renseignement, en fait.
Alors, la boucle OODA est intéressante. Tu peux en parler?
Ouais. La boucle OODA, en fait, à la base, c'était un pilote de l'armée de l'air américain qui l'a trouvé. Donc. Les pilotes de chasse, ils opèrent quand même à des rythmes qui ne sont pas ceux d'un CERT, quoi qu'on dise que les CERT sont très dynamiques et tout. Et en fait ils partaient du principe que les pilotes de chasse, ils obéissent à certaines étapes, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, où ils observent le contexte autour d'eux, ils orientent leurs actions ou leurs possibilités en fonction du contexte, ils décident de quelle action ils vont prendre, et ils agissent sur l'action. Donc ça veut dire que cette boucle, donc elle est répétée à l'infini jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui gagne. Donc ça s'applique de manière assez, assez bonne à tout ce qui est réponse sur incident et, ou cyberattaque. On pourrait dire que quand les attaquants ils observent le contexte d'une entreprise ou la posture de défense d'une entreprise, ils vont ensuite orienter... ils vont orienter leur décision. Donc ils vont dire, bon, ben voilà, cette entreprise, elle utilise ça, donc nous, on va utiliser tels outils, tels exploits, etc. Ils vont décider, donc ils vont se décider à comment est-ce qu'ils vont lancer leur attaque, quand, etc. Et hop, ils vont agir. L'enjeu de la boucle OODA, c'est de savoir, ou en tout cas essayer de faire, que notre boucle OODA, en termes de défenseur, soit plus petite, plus rapide, que la boucle OODA de l'attaquant. C'est-à-dire que si l'attaquant, pour reprendre le cas de CryptoLocker, dit « Ok, on est dans un schéma où on peut générer un domaine par jour, ça marche très bien, on ne se fera jamais supprimer notre domaine avant de pouvoir s'en servir. » Donc ils décident d'utiliser un DGA et ils agissent dessus. Donc ils lancent leur campagne, ils ont codé leur malware en utilisant ce DGA. Si avant qu'ils aient lancé leur attaque, on pourrait dire avant qu'ils aient lancé leur énième vague d'attaque, les défenseurs, ils arrivent à s'adapter à ce contexte-là et à agir donc sur ces informations qu'ils ont, et bien du coup, ils arriveront à reverser le DGA et à prendre les mesures nécessaires pour bloquer l'attaque. C'est-à-dire que si le défenseur il arrive à la partie acte avant l'attaquant, qui lui sera par exemple à Observe ou Orient et il constatera que rien n'a changé, et bien du coup, ils seront en train de prendre des décisions sur un contexte qui n'est plus vrai et qui est faux. Et donc à partir de là, c'est les défenseurs qui gagnent. À l'inverse, hein, comment ?
Ça veut dire que il n'y a que les anciens militaires qui peuvent faire de la threat intelligence ? Non, mais de manière générale, on transpose énormément de concepts militaires dans le domaine de la sécurité informatique. Enfin, en ce moment, il y a tout le débat autour des accords de Wassenaar, enfin, comment on appelle ça ?
Ouais.
L'arrangement de Wassenaar, etc. Et j'ai l'impression que maintenant, la moindre réflexion sur la cybersécurité, entre guillemets, c'est devenu obligé de citer Sun Tzu ou n'importe quel général américain.
Moi, ouais, la plus vieille référence que j'ai à ce mélange cyber-militaro-cyber, c'est tous les produits de chiffrement qui disaient que nous on utilise du military grade encryption. Et là tu dis, mais waouh, c'est génial, ils utilisent la même crypto que les militaires, mais ça doit être complètement dingue. Et je me suis d'ailleurs posé la question de pourquoi est-ce qu'il y avait autant de. Enfin, pourquoi est-ce que c'était deux domaines qui étaient si perméables. Et je pense que ça vient du fait surtout que finalement les militaires, c'est eux qui ont le plus d'expérience en ce qui concerne comment gérer un adversaire, quoi. Et finalement, nous, c'est un problème qu'on a, hein, comme diraient certains, c'est on n'a pas un problème de malware, on a un problème d'adversaire. Et je pense que c'est vrai à un certain degré. Hein. Je pense qu'une fois qu'on a réussi à... Enfin, c'est sûr qu'en se basant sur les gens qui étudient les adversaires depuis le plus longtemps possible, il y a forcément des outils qu'on va leur emprunter, quoi.
Enfin, ceci dit, je suis pas sûr que les métaphores militaires soient transposables de manière instantanée dans le cyberespace. Hein. Parce que quand tu as un problème d'ennemi dans le monde réel, tu peux lui balancer des missiles sur la gueule dans le cyberespace.
Non, mais c'est pas la métaphore, c'est surtout les méthodes qui sont intéressantes. On parlait de la classification de l'information, des règles en matière d'échange, etc. Tout ça, ça existe déjà dans le monde du renseignement et dans le monde militaire. Et c'est juste à adapter correctement, en fait. Et puis c'est normal que ça interagisse aussi.
Puis, enfin, c'est beaucoup aussi de descriptions de tactiques et de stratégies à long terme qui n'existaient pas au niveau des défenseurs jusqu'à il n'y a pas longtemps, en fait. Puisque tout le monde faisait confiance à son firewall et à son IDS.
Et
il n'y avait pas vraiment de stratégie tactique définie justement pour répondre et se prémunir à une attaque. Et je pense que il y a pas mal de choses qui ont été décrites chez les militaires qui peuvent être reprises assez simplement et en dégageant quand même certains jargons qui sont propres au théâtre d'opération, mais qui peuvent être repris dans une stratégie et une tactique d'attaque-défense.
Ouais. Je sais pas si la black box Maginot, c'est une bonne idée quand même. Hein.
Ouais, j'ai quand même un peu du mal à transposer les concepts militaires dans une banque, enfin, ou dans n'importe quel établissement qui veut veiller à sa cybersécurité. Ce que je veux dire, le militaire, il peut faire des assassinats ciblés, il peut faire des kidnappings, il peut détenir des armes, tu vois.
Ouais.
Tu parles juste d'une entreprise privée, jusqu'où elle peut aller pour faire du renseignement, est-ce qu'elle peut lancer des satellites dans l'espace pour faire de la photographie haute résolution, enfin.
Bah, non, mais réfléchir pourquoi tu recueilles du renseignement. Justement, Thomas a insisté sur la connaissance de l'ennemi, de l'attaquant. C'est une démarche essentielle. Après, c'est savoir ce que tu en fais. Effectivement, tu vas pas aller attaquer ton ennemi. En revanche, tu vas adapter ta posture à ton type d'ennemi. Donc, adapter tes défenses, par exemple.
Oui, mais dans le renseignement réel, je veux dire, tu as des infiltrés. Je veux dire, est-ce que t'envisages d'aller envoyer des gens dans la mafia russe pour savoir qu'est-ce qu'ils préparent comme programme?
Peut-être pas de manière physique, mais de manière logique, oui, il y a pas mal de sociétés qui font ça.
Oh là, là, on flirte dangereusement, parce que tu sais que si la police en France, t'as pas le droit de le faire, par exemple, d'être est-ce qu'en France, tu peux faire ce genre de choses dans ton entreprise, ou même trouver un prestataire qui le fait pour toi?
Pour le moment, je pense pas. Après, c'est l'avantage aussi des échanges d'informations, c'est qu'il y a des gens qui peuvent le faire ailleurs et qui échangent cette information. Et là-dessus, il y a des listes privées qui existent, il y a des projets, il y a des donc après voilà qui le tout le problème est de savoir à qui tu fais confiance et à qui tu, comme expliquait Thomas, à qui tu fais confiance et à qui tu fais le sharing de l'information.
Privé va pas aller commanditer des assassinats. des entreprises qui lancent des satellites dans l'espace ou qui récupèrent des clichés haute définition, j'en connais quelques-unes. Mais après, elle s'en sert peut-être pas pour envoyer des scuds ou des drones, quoi. Mais après, bon, évidemment, on a de l'information et on agit dessus dans la limite du légal, évidemment, dans ce qui nous intéresse aussi. Bon, comme disait Eric, c'est vraiment pour améliorer la posture d'une posture de sécurité ou d'arriver à résoudre plus rapidement un incident.
Alors justement, dans ta présentation, tu parles de F3AD.
Ouais.
Qui met bien ça en perspective. Tu peux en parler plus?
Ouais, alors F3AD, c'est pour le coup, ça va faire plaisir à Nicolas parce que c'est vraiment hérité du monde militaire. Et ça a pour but de faire le parallèle entre les opérations terrain et la partie renseignement pur et dur. En gros, ça part du principe que on rétroalimente une opération avec du renseignement qu'on aura obtenu préalablement et éventuellement à partir d'autres opérations. Donc, dans le diagramme qui est en rouge, hein, les trois étapes en rouge qui sont les étapes qui sont liées aux opérations, donc find, fix, finish, ça équivaut à trouver une cible, mener à bien l'opération, et finish, c'est-à-dire rapatrier le renseignement qui aurait été obtenu avec au petit carré vert, donc, qui s'occupe de la partie renseignement du process, qui du coup va exploiter le renseignement, va l'analyser et va le disséminer, donc qui va le renvoyer aux opérations. Et comme ça, on a un cycle qui est infini et qui va justement permettre, en utilisant des informations qu'on a préalablement trouvées dans nos incidents ou dans des trucs comme ça, proactivement les chercher pour essayer de voir si on n'a pas cette même indicateur de compromission qui ressort ailleurs. Donc c'est ce que les Américains appellent le hunting, dans le cyber en tout cas. C'est de manière proactive, on dispose de certaines informations ou de certains marqueurs, et proactivement, sans qu'il y ait d'alerte SIEM qui ait été levée, ou d'autres alertes firewall ou des règles SNORS, on va aller chercher, on va voir si, tiens, dans les logs proxy, est-ce qu'il n'y a pas telle URL qui a été requêtée.
Ouais. Enfin,
t'as l'air sceptique, Nicolas.
Oui, non, mais... En fait, encore... Enfin, tu vois, quand tu dis finish, ça, c'est vraiment... Encore une fois, c'est vraiment la terminologie militaire, quoi. Enfin, comment tu peux finish une APT, quoi, à moins de débarquer chez eux en hélicoptère et de tout raser au napalm. Je veux dire, les malwares reviendront. Et si t'as une info à un instant T, que t'arrives à bloquer une attaque, que le gars en face rencontre son attaque a pas marché, 15 jours après, il réessaye. Enfin, après, ça dépend du profil de l'attaquant, bien sûr. Mais je veux dire, le gars qui veut rentrer chez toi.
Il essaiera chez quelqu'un qui est pas aussi bien équipé et organisé. Donc, il essaiera chez le voisin, et donc il essaiera pas dans ta banque, mais dans une autre banque.
Ça, t'y crois à ce blog post de CrowdStrike qui dit qu'à un moment, les attaquants se rendent compte que la société X utilise le produit CrowdStrike et qu'en voyant ça, du coup, les attaquants sont enfuis et sont jamais revenus? Oh, mais ça, c'est un blog post.
J'y crois pas trop, personnellement. Après, encore une fois, ça dépend de l'attaquant. Hein. Si l'attaquant, la seule chose qui l'intéresse, c'est d'arriver à virer de l'argent sur son compte. Effectivement, s'il voit qu'il y a une banque qui est vraiment très bien équipée, il va peut-être essayer de se frotter aux banques qui sont moins. Après, si c'est une société qui a de la propriété intellectuelle qui est intéressante pour ses attaquants, et que ses attaquants ils veulent cette propriété intellectuelle-là et pas une autre, et ben, du coup, ils vont quand même essayer de t'avoir. Mais après, c'est eux, ils ont la même réflexion que nous, hein, c'est combien est-ce que ça leur coûte, hein. Ça se trouve, ça leur coûtera plus cher de monter une opération cyber que de faire la R&D eux-mêmes. Donc à partir de ce moment-là, ça ne sert plus à rien d'attaquer, quoi. Ouais, c'est une limite théorique, hein, d'accord, mais...
Il y avait un bon exemple, enfin il y a un bon exemple dans l'histoire de ça, c'est le piratage des RSA qui servait que de point d'entrée pour essayer d'attaquer des boîtes comme Lockheed Martin et ce genre de... Donc des sociétés... militaire quoi. Et en fait ce que font de plus en plus les, enfin tu m'arrêtes hein, Thomas, si je raconte des bêtises, mais ce que oui. Font de plus en plus les attaquants, c'est qu'ils regardent un peu la chaîne de, enfin les attaquants on va dire organisés, qui vont plus loin que le simple crimware de base, c'est qu'ils vont regarder un peu la chaîne de valeur de leur cible, et s'ils se rendent compte que c'est plus facile de rentrer à un niveau de la chaîne de valeur pour atteindre leur cible, bah, c'est ce qu'ils vont, enfin c'est cette tactique là qu'ils vont mettre en œuvre plutôt que de se rentrer de manière frontale dans un mur et sans pouvoir faire quoi que ce soit, quoi.
Oui, eux ils vont toujours essayer de chercher leur endroit le plus faible, mais ils vont pas aller au-delà. C'est-à-dire que Il y avait un type qui avait fait une présentation à Bocon il y a quelques années où il disait moi j'ai un stagiaire qui fait de l'exploitation. Les exploits qu'il fait pour Adobe PDF Reader, ils sont top, l'argent 99% des cas. Les exploits qu'on rencontre dans la nature, ils sont beaucoup moins bien que ça. Ils sont mal connus. Ils fonctionnent, ils se vautrent une fois sur deux. Mais du coup, eux, ils s'en foutent. Du moment qu'ils ont un point d'entrée dans le réseau, après, c'est fini, quoi. Donc oui, effectivement, ils vont pas dépenser plus de ressources que ce qu'ils ont besoin pour arriver à atteindre leur objectif.
Non, mais là, je crois que finalement, on bute sur le problème qu'on n'a jamais vraiment défini la menace. Parce que effectivement, il y a une différence fondamentale entre les gens qui font du phishing de masse pour voler des identifiants bancaires et faire des virements, et les gens qui vont infiltrer ton réseau pour aller citer une banque directement sur la console de l'opérateur, virer de l'argent, ou citer un industriel, voler ta propriété intellectuelle, etc. Et quelque part, ok, dans les deux cas, c'est une menace, mais je pense pas que tu puisses l'adresser de la même manière.
D'ailleurs, tu ne l'adresses pas du tout de la même manière. Ce serait justement se tromper que de dire on va déclencher un incident qui va mobiliser 10 personnes à chaque fois qu'on reçoit un mail de phishing des impôts. Ça, c'est juste inconcevable. Non, c'est pour ça qu'il faut être conscient de qui, encore une fois, sans vouloir attribuer les attaques à une nationalité en particulier, hein, mais de savoir qui sont les acteurs qui nous ciblent. Est-ce que c'est des Anonymous? Est-ce que c'est les Al-Qassam Cyberfighters qui n'avaient pas la même puissance de frappe? Et en fonction de ça, du coup, là, il faut trouver les solutions appropriées. Dans le cas de Al-Qassam, on avait vu que c'était des types qui utilisaient des serveurs pour avoir un énorme débit et attaquer plusieurs banques US. Ça changeait quand même du Loïc qui est lancé par les Anonymous et qui va faire des guettes sur ton serveur, quoi. C'est pas du tout la même attaque, donc on s'y prépare différemment.
Ok, vous voyez des choses à ajouter, des questions ou des remarques?
C'est quoi le niveau de maturité en France?
Je pense qu'on n'est pas très bon en France au niveau de maturité générale, et même je dirais peut-être dans le monde, hein. Peut-être qu'aux US, ils ont peut-être plus de marge de manœuvre pour évoluer là-dedans. En France, ça reste quand même un domaine où les gens sont assez frileux d'y rentrer. C'est pas demain la veille que l'ANSSI va prendre des prestataires de chez Solucom ou autre pour remplir la plupart de leurs effectifs et de leurs postes. Alors c'est quelque chose qu'on voit très bien avec les US.
Le régime juridique n'est pas le même, mais c'est pas simple à envisager, notamment en matière de données à caractère personnel. Là, aux États-Unis, ils ne se posent pas toujours trop de questions. Hein.
Aux États-Unis, ouais, ils sont plus en mode on va d'abord agir et puis après on se posera les questions, quoi.
Je suis pas persuadé que véritablement il y ait une moins bonne maturité en Europe qu'aux États-Unis. La maturité, elle est très disparate d'un secteur d'activité à un autre. Mais nous, on a quand même la chance d'avoir inculqué aux gens des méthodologies, enfin, ce qui est facile à partager depuis très longtemps. Et si, rien que se comparer à d'autres pays d'Europe, franchement, on est beaucoup plus battu là.
Tu penses à quels autres pays en Europe?
Les pays d'Europe du Sud, pour commencer. Certains pays d'Europe de l'Est.
Enfin, si on est mature, on le montre pas, hein, parce que si tu regardes le nombre de papiers ou d'IOC ou d'outils, enfin, les outils ça va un peu, mais si tu regardes le nombre de white papers sur des attaques publiées par des Français, c'est zéro.
On partage pas trop, et ça c'est sûr.
Si tu regardes l'argent détourné, quelles sont les banques qui sont fait piquer le plus de pognon? Je m'excuse, c'est pas en France.
Ouais, enfin, les banques françaises sont anecdotiques, hein, en termes de...
Pas tout à fait, mais bon.
Les banques françaises sont anecdotiques.
On a justement des grosses.
Pour dire ça.
On a justement des grosses banques, ce qui est une particularité française.
Je vérifie sur Wikipédia.
Non, tu peux te cacher, Nicolas, t'as tort.
Alors, les plus grandes banques mondiales. ICBC, non, mais... China Construction Bank, JP Morgan, Bank of China, Agricultural Bank of China, Citigroup, Wells Fargo, BNP Paribas,
ben oui.
Santander, UBS, Goldman Sachs, Barclays, BBVA et Société Générale devant Crédit Suisse. Bravo.
On est quoi, à 10 euros par marque.
Non mais franchement, si tu prends Santander ou BBVA, est-ce que ce sont véritablement des gens qui ont une maturité en sécurité équivalente à celle des deux banques françaises du même niveau? Moi, j'en suis sincèrement pas persuadé. Et donc, de ce point de vue-là, je vois vraiment pas pourquoi on se dénigre une fois de plus en tant que Français. En matière de réponse à incident, en matière d'analyse de la menace, franchement, on n'est pas si mauvais que ça.
On n'est pas forcément mauvais en réponse à incident. Après, en termes de tous les éléments qui englobent le renseignement sur la menace, là, c'est vrai qu'on pourrait se partager plus d'infos, quoi. Et ça, c'est un des piliers. Après, quand on voit que d'autres personnes disent que ça sert à rien, rien que le fait qu'on soit en train d'avoir ce podcast pour devoir en parler, expliquer pourquoi est-ce que c'est quelque chose de bien, enfin, d'argumenter, on va dire, pourquoi est-ce que c'est bien et pourquoi est-ce que c'est nécessaire. Enfin, aux US, ils ont déjà passé cette étape il y a bien longtemps, quoi.
Oui, mais il n'y a que les US.
Elles empochent le pognon et c'est fini.
Oh, non, c'est pas que les US, hein, c'est les Five Eyes de manière générale, parce que quand t'es dans une entreprise comme celle où j'étais avant, qui opère en plusieurs pays en Europe, toutes les bonnes infos, elles arrivent par l'Angleterre. Et contrairement à l'ANSI qui t'envoie le truc chiffré avec ACID, des feuilles Excel chiffrées avec ACID, enfin, tu rigoles, tu vas au JCH, enfin, en Angleterre, le JCHQ, il envoie ça directement par mail à tout le monde, quoi. Et après, ça te revient par les autres canaux.
Ouais, mais est-ce que la bonne solution à terme, elle est pas un peu entre les deux? Parce que là, tu décris deux régimes un peu extrêmes et moi, je suis un peu inquiet quand je vois de l'information circuler en clair qui contient des données à caractère personnel, qui contient des données qui peuvent être sensibles pour une entreprise. Et des précautions à prendre de temps en temps. Hein.
Ouais, alors le problème des données à caractère personnel dans la réponse sur incident, j'ai du mal à le voir en fait. Enfin, il y a peu de chances quand même que les données qui circulent entre certes soient utilisées pour faire du spam ou te revendre des élargisseurs.
Ah non, mais c'est juste avoir le bon niveau de sécurité, c'est pas avoir un niveau de sécurité exceptionnel. Mais entre zéro sécurité et faire attention un petit peu à ce que tu fais, il y a de la marge, quoi.
Mais les certes, en général, ils échangent de manière chiffrée.
Oui, ils utilisent des données, oui.
Il n'y a pas de problème. Oui, tout à fait.
Tu vois, ça, je crois que c'est typiquement un problème français de faire du sur-engineering en disant « Ah, il y a une possibilité pour que ça se passe mal et donc on fait rien. » Et pourquoi ça marche aux États-Unis? Parce que les IOC, etc., ils ont une valeur marchande. Donc c'est clair, tu as des boîtes qui se lancent, qui disent « Moi, j'ai l'info, vous me payez combien ?» Et les boîtes en face, elles évaluent en disant « Bah, ton info, elle m'intéresse, je suis prêt à mettre tant. » En France, tu vois, il faut connaître les gens, il faut aller boire, tu as les trucs qui circulent sur clé USB, alors bon, le niveau de protection, il vaut ce qu'il vaut. Peut-être que la clé USB elle est chiffrée, mais à partir du moment où tu mets pas une valeur sur ton information, c'est. Enfin, je dis pas qu'elle vaut rien, mais du coup, tu as du mal à savoir ce qu'elle vaut. Quoi. Et du coup, il n'y a pas de structuration autour, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de. Tu vois, il faut connaître les bonnes personnes, la personne elle part à la retraite, du coup, tu n'as plus de contact. Enfin, je pense qu'en termes de maturité, contrairement à Hervé, la France est vraiment très mauvaise, quoi. Je veux dire, contrairement à la vie d'Hervé, hein, je parlais pas de la maturité d'Hervé en lui-même.
Non, mais tout est relatif. Soit tu ne fais que nous comparer aux anglo-saxons. Il n'y a pas que les anglo-saxons sur la planète.
Oui, alors tu peux te comparer au low bottom, mais enfin, comme on n'arrête pas de te rabattre les oreilles que la France est dans le top 5 des grandes puissances avec un siège à l'ONU, etc., je suis pas sûr que ça fasse du sens de se comparer avec le Bhoutan. Même s'il nous explose sur l'indice de bonheur, mais bon. Tu vois l'idée. Enfin, je veux dire, soit on est leader, soit on n'existe pas, quoi. Donc évidemment, si on n'en fait pas, oui, on est dans les 150 pays qui en font pas. Ouais.
Thomas, d'après toi, qu'est-ce qui manque en France?
Moi, j'aimerais bien voir plus de partage d'infos. Je pense qu'en discutant avec d'autres certes ou autres, on se rend compte qu'on est vraiment tous en train de bosser sur les mêmes problèmes. On est tous en train de coder les mêmes outils. Ça a d'ailleurs été une des raisons pour lesquelles on a voulu publier FIR. Hein. C'est pour se dire, bah voilà, nous, on a été confrontés à ce problème il y a 2 ans. Si vous avez besoin d'un squelette pour gérer des incidents qui ne vous coûtent pas le bras, enfin, utilisez ça, quoi. Et du coup, je pense qu'il faut, qu'on partage plus entre gentils, parce que bah, les méchants, eux, ils n'hésitent pas une seconde à partager des infos, et c'est comme ça qu'on ira plus vite qu'eux, quoi.
Eh ben, ça me semble être une très bonne conclusion.
Ouais.
Ben, merci beaucoup de votre attention. On espère que cet épisode vous aura intéressé et on vous dit à très très bientôt pour un nouveau podcast. Salut.
Salut. Au revoir.
Salut.
Au revoir. Merci.